Ok, ça marche, chacun commence. On va lire premièrement le quatrième chapitre. On avait terminé avec le chapitre 3 avant les fêtes. Puis on commence le chapitre 4 à partir du verset 1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. De peur de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. À autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui, tout le peuple qui était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth et qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérets. Pérets engendra Hezron. Hezron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachshon. Nachshon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. L'Éternel va bénir. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va se courber un moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore une fois de se retrouver dans cette nouvelle année 2026 avec ta parole qui ne change pas, Seigneur. Puis on sait que peut-être que l'année 2026 sera l'année où on va voir ton fils revenir pour nous prendre avec lui. Mais en attendant, donne-nous d'être fidèles, puis donne-nous d'avancer dans tes voies en comprenant ta parole, Seigneur, en la recherchant, puis pour la serrer dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. On veut te remercier pour toutes ces choses. On te rend grâce pour ton amour, ta fidélité. On te rend grâce pour chacun qui sont connectés ce soir par le nom précieux de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on arrive dans le chapitre 4, puis on sait que c'est vraiment la conclusion de tous les événements des chapitres 1, 2 et 3. La décision de Ruth dans le chapitre 1, le service de Ruth dans le chapitre 2, puis la récompense de Ruth dans le chapitre 3, puis là maintenant dans le chapitre 4, bien, on voit l'exécution de ce que Boaz avait promis à Ruth dans le chapitre 3. Mais dans ce chapitre-ci, on voit qu'il se joue une scène d'une importance primordiale dans le plan de rédemption de Dieu, là. C'est la lignée qui va amener le Messie. Des fois, on pense à ces gens-là qui ont vécu dans ce temps-là avec les choses qui sont arrivées, les événements qui se sont passés dans leur vie. Puis, c'était des gens qui étaient comme nous, qui vivaient leur vie. Puis, mais le Seigneur utilise leur situation pour nous faire comprendre des choses en rapport avec son plan merveilleux de rédemption. Mais ils sont devenus dans la parole éternelle, dans les pages de la parole de Dieu. Puis, mais ils ont joué un rôle quand même très important. Donc, c'est là, ici, c'est directement avec la lignée qui va amener le Messie dans le monde pour nous sauver. Mais dans ce chapitre-ci, on voit qu'il y a trois personnages qui sont importants dans ce chapitre-là. Ça nous donne les divisions aussi du chapitre. Il y a un époux, c'est Boaz. Puis c'est le chapitre 4, versets 1 à 10, on voit l'époux à l'œuvre pour acquérir cette épouse-là. Puis le deuxième personnage, c'est l'épouse qui est Ruth elle-même, la Moabite, qui est venue chercher refuge, chercher sa récompense avec le Dieu d'Israël. Puis il y a un enfant qui naît de cette union-là, c'est Obed qui est. C'est le chapitre 4, versets 11 à 12, tandis que Obed, l'enfant, c'est le chapitre 4, versets 13 à 22. Donc, il y a une situation ici qu'on voit par rapport à la mort de Élimélec et ses deux fils, mais la loi avait prévu des situations comme celle-là. Puis la loi avait prévu cette situation même. Puis là, ça nous parle de ça, ça nous parle de l'omniscience de Dieu, comment Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, a tout prévu. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Il connaît toutes choses, puis il connaît les situations, il connaît l'histoire avant qu'elle arrive. Et il avait prévu toutes ces situations-là parce que on voit que le plan de Dieu s'accomplit malgré la faiblesse de l'homme, malgré les faillites de l'homme, malgré les manquements de l'homme. Dieu, quand même, il utilise même les faiblesses pour arriver à son but dans sa souveraineté, mais aussi dans sa toute-puissance, puis dans son omniscience. Donc, il avait prévu ces choses-là. Le premier chapitre, on avait vu, s'est ouvert sur trois funérailles. C'était Élimélec et ses deux fils, Mahlon et Kiljon, qui sont morts dans le pays de Moab. Mais le chapitre 4, lui, se termine avec un mariage. Un mariage, puis c'est un peu comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, au début, dans la Genèse, on voit la création, puis tout de suite vient la mort à cause du péché. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, la mort dans le début, mais à la fin, dans l'Apocalypse, ça termine avec un mariage. Un mariage, c'est le Christ, l'époux divin, qui est uni à son épouse, ses rachetés, qui vont partager l'éternité avec lui, qui vont partager toute sa richesse avec lui. C'est un peu ça qu'on voit dans le chapitre, dans le livre de Ruth aussi. Ça commence dans la mort, mais ça termine dans un mariage qui produit la vie aussi, le fils qui vient Obed. Mais on dit des fois, c'est Dieu qui écrit le dernier chapitre. Des fois, on est dans des situations difficiles, puis on dit souvent ça, souvent aussi avec la famille, les enfants, des fois, c'est pas facile. Mais moi, je dis souvent, je dis, l'histoire n'est pas terminée. Puis c'est Dieu qui met la conclusion à l'histoire. Puis il y a eu bien des expériences vraiment merveilleuses. Vous savez, il y a des gens qui ont pleuré, ont prié pour des enfants prodigues qui ont été longtemps éloignés. Puis tout d'un coup, par la grâce de Dieu, ils reviennent pour se tourner vers le Seigneur. Puis ça, c'est une grande réjouissance. C'est ça qu'on voit ici dans le livre de Ruth. Ça termine d'une bonne façon, ça termine dans une grande bénédiction, qui est même au-delà de la situation auparavant. Parce que c'est vraiment, quand il nous donne, à la fin du livre, il nous donne une généalogie à partir de Pérets jusqu'à David. Puis si on parle aux enfants d'Israël, à Israël, bien, quand on parle du roi David, Ben, c'était un grand roi. Puis il y a encore le sépulcre de David qu'on peut voir aujourd'hui encore. Puis pour eux autres, de reparler de David, c'était une grande bénédiction. Mais on sait que la bénédiction est encore plus grande avec le plus grand fils de David, qui est le Seigneur Jésus, parce que c'est la lignée même du Seigneur Jésus-Christ ici. Donc, le plan de Dieu est comme ça. Dieu part de notre faillite. Il part de la mort pour amener la vie. Puis c'est ça que le Seigneur a fait. Donc, à la fin, ça se termine par la mort a été engloutie par la vie. Dans 1 Corinthiens 15, qui nous parle de le chapitre qui nous parle de la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts, c'est vraiment l'antidote de la mort. La mort est venue, puis la résurrection des morts est venue aussi par un homme, par le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit dans 1 Corinthiens 15, 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Puis imaginez comment ça va être tellement une belle victoire quand à la fin, la mort va avoir été détruite, on va être ressuscité. Ceux qui vont être vivants encore pour la venue du Seigneur, on n'aura pas besoin d'être ressuscité, mais on va être transformé pour revêtir un corps glorieux, un corps éternel qui, on va être avec le Seigneur pour l'éternité dans le corps, l'âme et l'esprit réunis ensemble. Dans le psaume 30, au verset 6, il nous dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Après une longue nuit dans les ténèbres, quand le matin se lève, c'est vraiment le grand espoir, puis c'est merveilleux. Donc, le matin, Gaméné dit ici, le soir arrive les pleurs et le matin, l'allégresse. C'est pour ça que c'est ce qui nous donne d'être patient dans l'épreuve. Quand on passe dans l'épreuve, d'être patient parce que le Seigneur il va arranger les choses à la fin. Donc, on parlait de la loi avait prévu ces situations-là à cause des manquements de l'homme. Il y a deux situations ici qu'on voit, il y a deux problèmes, il y a deux situations dans le rachat ici. Puis la première situation, ben, c'est le rachat de la propriété ou de la terre qui appartenait à Élimélec. Puis la deuxième, ben, c'est la postérité d'Élimélec. Donc on a la terre d'Élimélec, puis c'était une loi en Israël parce que Dieu avait divisé le pays pour donner la portion à chacune des tribus. Puis, il ne fallait pas que les propriétés de terre se mélangent. Il fallait que ça reste dans les tribus. Puis, c'est là le besoin du rachat par un proche parent pour que la propriété demeure dans la tribu à laquelle elle appartenait. Sans ça, ça aurait été mélangé, tout mélangé dans le pays d'Israël. Avec le temps, ça aurait fini que les tribus auraient eu des propriétés toutes mélangées à travers le pays. Mais on voit la loi qui concerne la terre ou la propriété, c'est dans Lévitique 25. On va aller dans Lévitique 25, on va aller au verset 23 à 34. Ici, il nous donne, c'est ce qui va être mis en pratique ici dans la situation qu'on voit là. Au verset 23 de Lévitique 25, il nous dit, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même, de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Donc, il y avait un moment où les propriétés reviendraient au propriétaire, même s'il ne pouvait pas racheter parce que ça devait revenir. Le jubilé, c'était la 50e année. On sait qu'à chaque 7 ans, il y avait un sabbat qu'on donnait à la terre. Puis 7 sabbats, ça faisait 7 fois 7 années, ça faisait 49 ans. Et le 50e année, c'était une année de jubilé. C'était une grande année. C'est que là, tout le monde retournait dans leur propriété. C'est comme si on remettait à zéro, on revenait à la condition originale. Puis c'est ça qui était, il retournerait dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Parce que vraiment, quand celui qui rachetait, il rachetait le nombre d'années qui restaient jusqu'au jubilé pour les récoltes jusqu'à ce moment-là. Mais il dit ici, si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera un an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Donc, dans les villes avec des murs, la loi était différente, mais c'était par rapport aux propriétés. OK, fait qu'on va. Ça, c'est pour concernant la propriété, concernant la terre que dans Bethléem, Juda, qui appartenait à Élimélec, que Naomi avait vendu parce qu'ils sont partis pour aller dans le pays de Moab, puis il y avait quelqu'un qui avait pris la terre, mais maintenant, elle revenait dans cette espérance-là. La deuxième loi, ça concerne la postérité. Puis cette loi-là, on la voit dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 25 aussi, les versets 5 à 10. Donc ici, c'était important aussi. La terre était importante. La terre devait revenir à l'acquéreur. Elle devait revenir au propriétaire. Puis ça ne devait pas être mélangé. Puis s'il n'y avait pas le droit de rachat, bien, au jubilé, le propriétaire revenait dans sa terre. Et ici, c'est la postérité qui est en question. Dans le chapitre 25 de Deutéronome, il nous dit, ça va nous aider à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe avec le rachat. Il dit, lorsqu'un homme sera. Je suis dans le chapitre 24, excusez. Dans le chapitre 25, au verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Donc on comprend un petit peu ici comment Ruth a interpellé Boaz pour lui rappeler son devoir de racheter. Puis, mais elle n'a pas eu besoin de faire qu'est-ce qui a été fait ici parce que Boaz, vraiment, lui, il avait à cœur de racheter. Donc, au premier verset, on voit que Boaz avait promis, elle avait interpellé pour qu'il fasse le rachat. Puis, Boaz, il avait promis. Puis, Naomi avait dit qu'il ne se donnerait pas de repos jusqu'à ce qu'il ait accompli ou terminer cette affaire ce jour-là. C'est pour ça que dans le verset 1, on voit que Boaz monte à la porte ici. Donc, à la porte de la ville, c'est là que se réglaient les situations en rapport avec la ville, les situations de la ville. On montait à la porte, puis c'est là qu'on jugeait des situations. On voit dans Deutéronome 21, on n'ira pas, mais dans Deutéronome 21, les versets 16, 18 à 21, si des parents avaient un fils qui était indocile, qui ne voulait pas les écouter, puis qui, après avertissement, il n'avait pas écouté ses parents, bien, il allait à la porte de la ville vers les anciens. Puis s'il n'écoutait pas, bien, ce fils-là, indocile, était lapidé. Donc les choses se réglaient à la porte de la ville. On voit aussi que dans 2 Samuel 15, 2, quand Absalom a gagné le peuple à lui-même, il était aussi monté à la porte. Puis les gens qui venaient là pour être jugés dans leur situation, pour avoir gain de cause, eh bien, lui, il les interpellait avant qu'ils arrivent au roi. Puis il leur disait qu'ils Lui allait régler leur situation, mais que le roi ou les gens du roi ne les écouteraient pas. Puis c'est comme ça qu'il avait gagné le peuple à lui-même en se tenant à la porte pour juger des situations des gens qui venaient au roi pour avoir le gain de cause. Et aussi dans Genèse 19:1, on voit que Lot, qui était à Sodome, non seulement il était à Sodome, mais Lot était aussi à la porte de Sodome. Donc, il était impliqué dans les choses, les affaires, on pourrait dire les affaires municipales. Eh bien, Lot était pas seulement dans Sodome, mais il était aussi impliqué. Puis même, on lui en a fait le reproche dans le chapitre 19 au verset 29. Ils ont dit de Lot, ils ont dit, celui-ci est venu comme étranger et il veut se faire le juge. Parce qu'il avait dit de ne pas faire le mal parce que les anges étaient venus chez lui. Puis il voulait pas que les gens de la ville leur fassent du mal. Puis c'est l'accusation qu'ils lui ont donnée. Il est venu ici comme étranger et il veut se faire le juge. Donc, en voulant dire, tu n'as pas d'affaires là-dedans, tu es un étranger, c'est nous autres qui règlent nos affaires. Mais on voit que le Seigneur est dans les circonstances, parce que Boaz monte à la porte, puis il nous dit ici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Donc, il vient à passer, puis Boaz peut l'interpeller. Il l'interpelle pour le mettre au courant de la situation. Pardon. Donc, Boaz l'interpelle pour le mettre au courant de la situation. Mais c'est étonnant dans un sens que cet homme-là qui avait droit de rachat, il n'était pas au courant de la situation. Il n'était pas nécessairement intéressé à la situation parce que si on n'est pas intéressé, ben on ne s'informe pas. Mais lui, c'est seulement parce qu'il est interpellé qu'il est mis au courant de la situation, puis il est mis au courant à cause de Boaz. Mais c'est drôle qu'étant dans Bethléem, Juda, on sait qu'on a lu dans le chapitre 1, verset 19, que quand Naomi est arrivée avec Ruth, toute la ville a été ému. Toute la ville fut émue, puis c'est dans le sens que ça a créé comme une commotion dans Bethléem, Juda. Fait que tout le monde était au courant, puis on le voit alentour, les voisines, les femmes, puis ils sont au courant, puis ils ont comme suivi la situation. On va le voir plus tard dans le chapitre, ils semblent heureuses de la tournure des événements pour Naomi qui arrivait. Qui avait dit que ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara ou Amère ou dans l'amertume. Mais celui qui avait le droit, le premier qui avait le droit de rachat, sans pas être au courant ou s'était pas intéressé à ces choses-là. Il n'y avait pas l'intérêt comme Boaz lui avait. Mais Boaz, lui, il était au courant. Il était au courant de la situation parce que lui, il s'était intéressé. Mais on voit au verset 2 qu'il prend 10 hommes parmi les anciens de la ville pour être des témoins. Puis, parce qu'il va faire une transaction, puis cette transaction-là va être publique. On sait que ça va être un mariage aussi parce qu'il prend aussi Ruth pour son épouse. Mais c'est pour ça qu'un mariage, il y a des gens qui pensent, ben, si on se marie devant Dieu, mais un mariage, c'est fait devant Dieu et devant les hommes. C'est le Seigneur qui l'a institué comme ça. Il a donné la loi civile, puis c'est la loi civile qui a autorité d'enregistrer ce contrat, parce que c'est fait devant des témoins, devant Dieu, parce que Dieu est toujours présent, mais aussi devant des témoins. Mais ici, il y a 10 témoins qui sont assis là, puis mais ces témoins-là nous rappellent aussi les commandements de la loi. Il y a 10 commandements de la loi. Puis les commandements de la loi, ben, ils se tiennent contre nous autres parce qu'on est coupable. Puis la loi nous montre, la loi, le rôle de la loi, c'est de nous montrer qu'on est coupable. Puis ici, le Seigneur a pris soin de ces choses-là pour nous autres, pour nous racheter. Il nous a pas racheté, il nous fait pas rentrer par la porte arrière, mais vraiment, le Seigneur, il a réglé toutes les situations qui se tenaient contre nous. La loi qui. Pour ça que dans Colossiens 2,14, il nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc la loi était là contre nous autres. La loi demandait, exigeait qu'on meurt, parce que celui qui avait brisé la loi mourait sur la déposition de deux ou trois témoins, mais la loi était contre nous autres, on était coupables, mais le Seigneur a réglé cette situation-là. Le Seigneur, il a ici, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit comment? En le clouant à la croix. C'est pour ça qu'il a pris nos péchés en son corps sur le bois, puis il a fait face à la justice divine qu'on méritait. Dans Colossiens 2,15 aussi, il nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Puis c'est pour ça qu'il nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Puis il n'y a aucune langue qui peut se prononcer contre ceux que le Seigneur a sauvés, parce que c'est lui-même qui a payé le prix. C'est vrai, bien, comme Satan pourrait amener des accusations, les dominations pourraient amener des accusations contre nous, mais le Seigneur Jésus peut dire, j'ai payé pour ça. Le Seigneur Jésus a réglé toute la situation. C'est pour ça que le salut de l'âme, de notre âme, est vraiment quelque chose de vraiment compliqué. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire pour régler toute la situation, afin qu'on soit Dieu soit juste, tout en justifiant ceux qui sont des pécheurs, en les justifiant par la foi. Donc, c'est ça qui le Seigneur a réglé toutes ces choses-là. Puis c'est pour ça que pour une religion d'hommes, une religion que les hommes ont pensée, comment que les hommes auraient pu régler toutes les situations? C'est pour ça que dans les religions d'hommes, il n'y a jamais d'assurance. On ne sait jamais si on en a fait assez. Mais par le moyen que Dieu a donné à travers le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on a une pleine assurance parce que tout est accompli. Dans tous les détails, il n'y a rien qui manque. Tout est parfait. Puis on est garanti qu'on va passer de cette terre au ciel, du temps dans l'éternité. Puis il n'y a rien qui peut empêcher cette transaction-là qui va être merveilleuse pour nous autres. Donc, c'est ça qui nous donne la joie. C'est ça qui est notre espérance. C'est ça qui aussi nous sanctifie, qui nous fait en sorte qu'on veut être séparés des choses de ce monde pour aller. C'est pour ça qu'il nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est là notre espérance. C'est là ce qu'on a comme joie. La rédemption se fait par le rachat, se fait par le paiement d'un prix. Puis notre rachat était très cher. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que dans le psaume 48, il dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Dans le psaume 49, les versets 8 à 9. Donc, il nous fallait un proche parent qui non seulement voulait, mais aussi pouvait nous racheter. Parce qu'il semble que le premier, il voulait racheter ou en premier en pensant à la propriété, mais après ça, il s'est désisté parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc, ça prenait quelqu'un non seulement qui voulait, mais ça prenait quelqu'un aussi qui pouvait, qui était capable. Puis, dans Hébreux 2, 14, 15, il nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a, c'est le Seigneur Jésus, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc le Seigneur, lui, il est devenu notre proche parent, il a pris sur lui il a paru comme un vrai homme comme notre parent, mais il était sans péché. Il était semblable à nous en tout point, sauf pour le péché. Il était sans péché, c'est pour cela qu'il pouvait devenir celui qui était notre rédempteur, et étant Dieu et aussi étant homme. C'est pour ça qu'il nous dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, étant Dieu, il peut rejoindre Dieu et étant homme, il peut rejoindre l'homme et les réconcilier ensemble. Mais aussi, on voit que le prix de notre rachat, ben, c'était le sang précieux de Christ. C'est pour ça que dans Hébreux 9, 22, il nous dit, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, il fallait absolument le sang Il y avait quelqu'un qui me disait, à un moment donné, il me disait, Dieu avait pas besoin du sang. Oui, le sang constate la mort. Puis nous, on méritait la mort. Il fallait que la mort soit constatée de notre substitut. Puis c'est le Seigneur Jésus qui a versé son sang pour nous, puis, mais qui est mort, mais qui est revenu à la vie. C'est pour ça que maintenant, nous, on a parlé de ça et on a été baptisés dans sa mort. Et quand lui est ressuscité des morts, ben, on est ressuscité en nouveauté de vie. Dans les versets 3 et 4, Boaz a interpellé pour le mettre au courant de la situation, comme il dit dans versets 3 et 4. Et si Boaz commence à instruire cet homme-là. Il dit, puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Donc, Boaz l'interpelle pour le mettre au courant de la situation. Comme on a dit tantôt, il n'avait pas vraiment démontré un intérêt vraiment pour la situation. Donc, on voit la différence entre l'intérêt de Boaz comparé à celle du proche parent. Hein. Boaz connaissait les détails de la situation, puis il pouvait les donner à celui qui l'a interpellé. Parce que pourquoi? C'est parce que Boaz s'était intéressé à Ruth du commencement. On sait que quand Ruth est arrivée, comme on a dit tantôt, la ville a été a été émue. Elle était émue, puis ça a causé toute une situation. Puis Boaz, Ruth, quand elle est arrivée dans ses champs pour glaner, eh bien, lui, il s'est informé. Il s'est informé. On a vu dans le chapitre 2, au verset 5, il a dit à qui est, à ses serviteurs, aux serviteurs qui s'occupaient de sa moisson, il a dit à qui est cette jeune femme. Donc, il s'avait intéressé à Ruth lui-même. Puis, mais même Ruth avait été impressionnée du fait comment Boaz s'était intéressé à elle. On voit dans le chapitre 2, au verset 11, qu'elle lui dit. Elle dit, Boaz lui répondit, OK, dans verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Voyez-vous, elle avait été touchée par l'intérêt que Boaz lui avait porté, parce que Boaz, après s'être informé à qui était cette jeune femme, eh bien, il lui a parlé. Puis il s'est informé d'elle aussi. Boaz lui raconte ce qu'il avait appris à son sujet. Au verset 11 du chapitre 2, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Donc, il avait quand même une bonne connaissance de Ruth et de ce qui s'était passé avant et maintenant qu'elle était arrivée dans le pays de Bethléem, dans la ville de Bethléem. C'est pour ça, le Seigneur, il nous connaît. C'est pour ça, quand on vient à lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Puis, c'est quelque chose. Il y avait un frère qui disait, il dit, vous, les chrétiens, il avait dit un frère, vous, les chrétiens, il dit, vous voyez tout le temps le mal dans l'homme. Puis le frère avait répondu, il disait, c'est merveilleux de ne pas avoir besoin de prétendre devant Dieu. On n'a pas besoin de prétendre. Il connaît exactement notre situation. Il sait tout ce qu'il en est de nous. Puis vraiment, quand on est sauvé, c'est d'être d'accord avec notre situation dans sa présence. Mais lui nous prend en main à ce moment-là. C'est lui qui nous prend en main pour changer la situation. Mais il avait aussi appris d'elle-même dans sa façon d'agir. Dans le chapitre 3, verset 10, il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Puis là, c'est le fait que Ruth était venue dans l'air et qu'elle avait découvert ses pieds et qu'elle s'était couchée à ses pieds. Puis, quand il a vu qu'elle était là, bien, il lui a demandé, puis elle l'a interpellé. Parce qu'il dit, t'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches, mais elle voyait l'importance, on en avait parlé quand on a parlé du chapitre 3, elle voyait l'importance pour elle de se marier avec celui qui avait le droit de rachat pour relever le nom du défunt. Puis c'était un trait que Boaz a apprécié d'elle. Puis ça faisait partie de toute la connaissance qu'il avait d'elle. Comment il était, il avait porté intérêt à la situation de Ruth. Et le proche parent, lui, c'est comme s'il n'avait pas réalisé, il n'avait pas connu toutes ces choses-là. Puis Boaz, lui, en faisait part. Donc, on arrive au verset 5. Au verset 5, il dit, Boaz dit, le jour où tu acquéreras, il avait dit, je rachèterai. Donc, il avait exprimé qu'il allait le faire. Mais Boaz lui dit, le jour où tu acquéreras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Donc, le proche parent était intéressé à l'héritage, mais Boaz, lui, était intéressé à Ruth. Il était intéressé à Ruth elle-même. Il s'intéressait à elle. Donc, il fait part de la responsabilité de ce proche parent, un peu comme Ruth l'a fait pour lui. Ben lui, il fait part à cet homme-là qui était proche parent qu'il devait prendre Ruth aussi en rachetant. Il devait prendre Ruth pour relever le nom du défunt. Mais lui, au verset 6, il dit, et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Donc, il exprime ici son incapacité. On voit, on avait parlé de ça auparavant, que en Adam, on ne pouvait pas être racheté en Adam. Il fallait maintenant être transféré en Christ parce que la loi était contre nous, étant les enfants d'Adam, de la postérité d'Adam. On était nés dans le péché, puis on était incapable de se racheter l'un l'autre. On était incapable de se racheter soi-même. Donc maintenant, on s'aperçoit que c'est seulement il faut un transfert, il faut maintenant qu'elle soit transférée à Boaz pour être rachetée. Mais en présence, lui, il ne pouvait pas racheter en présence des 10 témoins. Mais ce qui est maintenant, ça devient, ça transfère le droit, parce que lui, il avait le droit avant Boaz. Puis je me demande si Boaz, qui était intéressé à Ruth, qui voulait vraiment prendre Ruth comme épouse, ben, il devait vraiment se réjouir du fait que celui-là ne pouvait pas racheter parce que maintenant, lui, il pouvait racheter Ruth ici, là. Puis, mais le proche parent, il avait peur à son héritage. Mais peut-être aussi, il avait peur parce que il était de la lignée de Juda, lui aussi, étant proche parent d'Élimélec, puis de Bethléem, Juda, mais il était de la lignée de Juda. Puis si dans Genèse 38, on voit que Juda s'était éloigné de ses frères pour un temps. Puis quand il s'est éloigné de ses frères, bien, il a marié une femme qui était une étrangère. Puis il y a eu aussi des fils. Il y avait trois fils, Er, Onan, puis Shéla, qui sont nés. Puis Er, il s'est marié, lui. Il s'est marié avec Tamar. Puis, mais Er était, il était méchant. Puis l'Éternel l'a fait mourir. Fait que, selon la loi, comme on voit ici, ben, Onan devait prendre la femme de son frère comme beau-frère. Il devait la prendre pour relever le nom de son frère dans son héritage. Fait que Onan, il voulait pas relever le nom de son frère. Puis l'Éternel l'a fait mourir aussi. Puis après ça, ben, là, il y avait Shéla, mais Juda, il craignait de donner Juda à Tamar parce qu'il avait peur qu'il meure aussi. Là, t'en as deux qui sont morts. Ben, le troisième qui se présente, là, c'est pas encourageant, ben. Puis peut-être que ce proche parent-là, connaissant cette histoire-là, il avait peut-être peur de mourir aussi parce que là, Élimélec était mort, Malon était mort, puis Kiljon était mort aussi. Fait que peut-être qu'il s'est dit, si moi je la marie, ma vie est en danger. Parce que pourquoi qu'eux étaient morts, c'était à cause d'une situation. Mais il craignait. Mais aussi, il y avait peut-être aussi le fait que Ruth, c'était une Moabite. Fait que Ruth, c'était une étrangère. Puis le Moabite ne devait pas rentrer jusqu'à la 10e génération dans l'Assemblée. Donc, Ruth, comme on avait vu au verset 5, Boaz avait dit, il avait appelé Ruth la Moabite. Mais lui était. Mais Boaz, lui, il avait appris la grâce de Dieu. Boaz y avait appris la grâce de Dieu parce que son père, Salmon, lui avait aussi épousé une étrangère. Salmon avait épousé Rahab, la femme de Jéricho, Jéricho qui était les ennemis de l'Éternel. Puis il avait épousé cette femme-là de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'elle avait recherché la grâce auprès du Dieu d'Israël. On se souvient qu'elle avait reçu les espions, puis elle avait protégé les espions, puis elle leur avait fait promettre en recherchant, elle savait que leur Dieu allait vaincre la ville de Jéricho, puis elle ne voulait pas périr avec les gens de Jéricho, donc elle avait demandé qu'ils puissent, elle avait cherché la grâce de Dieu, puis Dieu est un Dieu gracieux, parce que même les ennemis, on sait que les brigands sur la croix, ou même ses bourreaux, pendant qu'il était à la croix, le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, on voit que Boaz avait appris que Dieu est un Dieu gracieux. Puis il n'a pas eu peur, lui, de prendre Ruth. Peut-être que lui qui est le proche parent, il a eu peur, peut-être qu'il a eu peur de mourir ou il a eu peur parce que c'était une étrangère. Mais Boaz, lui, il avait appris de son père, puis il avait appris sûrement de sa mère aussi, qui avait trouvé grâce. Puis lui était prêt à s'engager pour prendre cette étrangère-là pour qu'elle devienne sa femme. Mais, vous savez, il y a quelque chose qu'on va voir pareil, mais c'était pour relever le nom du défunt, mais Obed est dans la lignée de Boaz et pas dans la lignée d'Élimélec. Je me demande un peu, j'ai des questionnements par rapport à ça, mais il est le fils de Ruth, mais il est le fils de Boaz aussi. Mais c'est étrange, on voit que celui qui avait le droit de rachat, il a eu peur, il n'a pas voulu racheter parce qu'il avait peur à son héritage. Mais Boaz, il n'a pas eu peur, lui. Mais on ne connaît rien de celui, on ne connaît pas le nom de celui qui avait le droit de rachat, on connaît très peu de choses. On sait juste que c'était un proche parent, c'était le premier qui avait le droit de rachat avant Boaz, mais on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas son nom, on ne sait pas sa puissance, on ne sait pas, comme Boaz, il nous est dit dans le chapitre 2 au verset 1, que c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec. Puis il y a des détails qui nous sont donnés de Boaz, mais de cet homme-là, on ne sait rien. Mais Boaz, lui, qui n'a pas eu peur de s'avancer pour accomplir la volonté de Dieu, ben lui, il est inscrit dans les pages éternelles de la parole de Dieu. Puis son histoire nous est parvenue à nous. Puis on va voir même que par après, ils vont lui dire dans le verset 12, puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès qui fut enfantée à Juda par Tamar. Puis ils vont même lui dire, monte ta puissance dans Bethléem. Puis il devient encore plus puissant. Vous savez, il y a un missionnaire qui est allé en Afrique, dans l'Afrique, intérieure de l'Afrique, c'est David Livingstone. C'est un homme qui est allé dans l'Afrique, mais David Livingstone avait un frère. Puis son frère, le frère de David Livingstone, lui, il voulait se faire un nom dans le monde. Il n'est pas parti pour l'Afrique, mais David Livingstone, lui, est parti dans la jungle de l'Afrique pour défricher une trail pour l'Évangile, pour que l'Évangile puisse rejoindre l'intérieur de l'Afrique. Puis il ne s'est pas inquiété de faire un nom dans le monde. Mais l'autre, il s'est inquiété, lui, il voulait vraiment se faire un nom qui allait être reconnu dans le monde. Mais quand le frère de David Livingstone est mort, on l'a mentionné comme étant, il était connu comme étant le frère de David Livingstone. C'est que David Livingstone s'était fait plus un nom que lui dans le monde. Mais c'est pour ça qu'il nous dit dans Luc 9, 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Vous savez, quand on investit notre vie pour le Seigneur, on ne la perd pas. On la perd par rapport au monde. On la perd peut-être par rapport à nous-mêmes. Parce qu'on se dévoue, on s'offre comme un sacrifice. Il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Mais on ne la perd pas. On l'investit pour l'éternité. C'est pour ça qu'il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, dit le Seigneur Jésus, la sauvera. Puis ça, c'est vraiment merveilleux quand on pense Si on veut être connu pour l'éternité, il faut s'investir pour le Seigneur. C'est dans une œuvre éternelle. C'est pas dans les choses d'ici-bas. Les choses d'ici-bas sont passagères. Mais les choses éternelles demeurent éternellement. Puis quand on s'engage à servir le Seigneur qui nous a sauvés, bien, comme Boaz ici est passé dans les pages éternelles de la parole de Dieu, puis la parole de Dieu ne finira jamais. Fait que cette situation-là va constamment, on va la connaître pour l'éternité, puis encore aussi bien d'autres situations qu'on va connaître pour l'éternité. Tous ceux qui vont avoir reçu l'approbation du Maître qui va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la joie de ton Maître. Puis, je suis convaincu, moi, qu'on va entendre toutes ces histoires-là dans l'éternité. Des histoires qu'on n'a pas connues sur la terre, mais ceux qui ont été dévoués envers le Seigneur, ils vont vraiment avoir leur récompense, puis ça va amener la gloire au Seigneur. Puis là, on va pouvoir, je pense qu'on va avoir le temps dans l'éternité d'en connaître des témoignages qui vont être merveilleux. Puis peut-être qu'on se dira, ben, on aurait dû s'investir encore plus quand on va arriver à ce moment-là. Fait que c'est ça on va s'arrêter là ce soir. On est rendu prêt, je vais vous donner l'opportunité de pouvoir poser les questions ou faire des commentaires. Ça fait que je vous donne la possibilité de reprendre votre micro. Si vous avez des commentaires ou des questions, bien, on va s'arrêter pour un temps à regarder ces choses-là. On commencera la semaine prochaine, Seigneur voulant, au verset 7 du chapitre 4.
Quand on pense à cette personne-là, de la famille, le monsieur Untel, il était intéressé à avoir les choses, hein, il était intéressé à l'héritage. Mais le fait de devoir prendre Ruth en mariage, comme mari, ben, ça l'aurait obligé à splitter son héritage après. Hein, et qui était plus intéressé aux conditions physiques qu'à vraiment faire poursuivre le nom de la famille Untel.
C'est ça, quand on pense qu'on va gagner, mais on perd vraiment. Quand on perd pour le Seigneur, mais on perd jamais. Le Seigneur, il va nous donner au centuple. C'est pour ça que moi, d'un côté, quand j'ai été sauvé, je voyais que j'avais plusieurs, ben, j'avais pas beaucoup d'amis, mais ils voulaient plus me voir. Mais ça, je lisais dans la parole de Dieu, celui qui aura abandonné son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis dans ce siècle-ci, va retrouver au centuple dans le siècle-ci et dans le siècle à venir. Puis je ne comprenais pas dans ce temps-là, mais là, je le vois, là, qu'est-ce que ça a fait. Je connais beaucoup plus j'ai beaucoup plus d'amis que j'en avais dans ce temps-là. Avec le Seigneur, on n'est jamais perdant.
Gérard, celui
Oui.
qui voulait relever le nom de son frère là, en mariant sa belle-sœur, si cette personne-là était déjà mariée, est-ce que ça se faisait quand même?
Ben non, je crois pas, parce que là, c'était le plus proche, là. Parce que la polygamie, c'était pas le plan de Dieu, c'était un homme et une femme pour la vie. Mais c'est ça, c'est un fait que Boaz était disponible, parce qu'on ne voit pas qu'il était marié. C'est qu'il était disponible pour. Puis peut-être que aussi celui qui était plus proche parent, lui, il pensait à son héritage aussi.
Merci.
Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre en vue.
Mais le plus proche parent, il n'était pas marié non plus, là.
Ben, probablement pas s'ils l'ont sollicité pour faire le rachat. Mais il y avait peut-être quelqu'un d'autre en vue.
Ah.
Mais je
Pour ça qu'il ne
vois
voulait pas racheter.
à travers l'héritage, le rachat, c'est vraiment sage, hein? La sagesse de Dieu. Elle est infiniment variée. C'est vraiment réfléchi. Ça m'impressionne.
Oui, hein? C'est une belle histoire. Les détails sont importants.
Oui. Ça veut dire que quand tu te mariais, dans ce temps-là, tu risquais de marier la famille, peut-être.
De marier la famille?
Ben, s'il y avait plusieurs garçons, puis
Ouais.
que ton mari décédait,
Ouais.
il fallait que tu sois en harmonie avec les autres aussi. Là, ça ne veut pas dire que quand
Oui.
un garçon nous plaît dans une famille, les frères, c'est
Oui.
réciproque, là. Hein?
Ben oui, c'est ça,
Fait que
oui.
tu risquais peut-être d'en marier
Puis,
quelques-uns.
ben c'est ça, ben comme dans le cas de R puis Honor, puis. Mais là, finalement, ben, Tamar, elle avait aussi, elle voyait l'importance de la lignée. Puis Judas ne lui avait pas donné Shéla, donc elle s'est déguisée en prostituée. Puis c'est Judas qui a donné une postérité. Donc, c'est étonnant comment Dieu utilise même les fautes des hommes à travers ça. Puis il va quand même arriver à son but. Ouais. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Ouais.
Je vois qu'il n'y a pas d'égoïsme dans la pensée de Dieu vis-à-vis des rachats, là.
Oui.
Il n'y a pas d'égoïsme dans la pensée de Dieu.
Ouais, c'est
C'est-à-dire
ça, ouais.
que les gouvernements cherchent toujours à s'accaparer, à s'agrandir,
Ouais.
mais on voit le respect de Dieu pour la vie, pour la famille.
Ouais, c'est ça. Je vais redonner la possibilité parce que, OK, Raymond, je pense que tu prends ton son maintenant. Excuse-moi.
Pas de problème. Merci. C'est assez intéressant de voir comment, comme on pensait, la personne qui n'a pas voulu comme, prendre Ruth, c'est qu'il était, pour lui, ce n'était pas avantageux.
Ouais.
Mais c'est comme quand que on veut faire quelque chose pour le Seigneur, si je regarde les désavantages ou les avantages, je dois regarder ce que ça va faire pour la gloire de Dieu. Mais si je garde mon avantage, ben c'est sûr que je ne ferai pas grand-chose.
Ouais.
On doit toujours rechercher la gloire, surtout quand on arrive dans un livre comme Néhémie qui veut relever Jérusalem. Pourquoi? La gloire de Dieu. Puis
Ça
je
va.
lisais quelque chose, une pensée intéressante. Je veux dire, Dieu nous demande de faire des choses, mais le but suprême, c'est quoi? C'est toujours sa gloire.
C'est
Fait que je
ça.
pense que.
Comment ça va? J'ai-tu avec ton cellulaire? Attendez un
Oups,
petit
oups. Ah, mais c'est bon.
Oh. Est-ce qu'il y a
Hey.
Daniel? OK, Daniel Labbé, oui.
Oui, mais ça.
Attends un petit peu. Hop, oh,
Non,
OK.
mais
Bon, OK. Ça ne marche pas comme ça. Mais ça nous fait penser à un verset hein, qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
parce qu'il y a toujours le principe comment on regarde les choses.
» Oui.
Je connais une personne qui, on lui a dit, ben, si tu te maries, là, tu vas perdre ta liberté, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis, tu sais, ça, c'est une manière de regarder, mais il faut plutôt regarder les bénédictions que Dieu veut nous donner.
Ouais.
Et quelle bénédiction aussi Boaz a reçue.
Ouais. Ouais, oui, c'est sûr. Ben, pour l'éternité, ben, je sais pas comment est-ce qu'il comprenait à ce moment-là, mais maintenant, nous, on voit la grandeur de sa récompense. Puis la récompense de Ruth en même temps, parce que c'est la même récompense, là. Il partage cette récompense-là.
Façon de l'autre, tout ce que Dieu nous donne est fait pour partager.
Eh oui, c'est ça, oui. Mais lui-même, il veut partager avec nous. C'est pour ça qu'il nous sauve. Il partage toute sa richesse.
Boaz est une bonne image de la bonté de Dieu envers nous, du Seigneur envers nous.
Ouais. C'est sûr que Ruth, quand il l'a épousée, elle savait qu'elle épousait quelqu'un qui allait vraiment prendre soin d'elle. Qui allait tout partager avec elle parce que toute sa richesse maintenant, elle était Ruth la Moabite jusqu'à ce moment-là. Maintenant, elle est la femme de Boaz. Une étrangère. Maintenant, elle était liée à l'homme riche et puissant. Puis, on va voir qu'il va devenir encore même plus puissant.
Elle est devenue l'épouse de Boaz, mais nous, on est des enfants de Dieu. Ça, c'est aussi. Dieu nous a adoptés, puis on est là. On est
On
sûr
est dans
qu'on
la
est
famille.
sa garde, sa protection, et etc. Là.
Ouais.
Tous ses bienfaits, ses bénédictions sont pour nous.
On est l'épouse de Christ.
Exactement.
Ouais.
Entre autres.
Et quand il va se présenter devant son père, il va dire, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. On rentre au même titre que le Seigneur Jésus. Je me souviens une fois, j'avais été visiter quelqu'un avec un frère, puis c'était son père. Puis il nous avait dit de ne pas manger en chemin parce qu'il nous avait préparé un repas. Puis quand on est arrivé là, il dit, moi, il dit, quelqu'un qui vient ici avec mon fils, là, il est reçu comme mon fils. C'était pas un chrétien, lui, mais j'ai dit ça, j'ai dit, c'est de la même façon que Dieu nous reçoit. Quand on est avec son fils, il nous reçoit comme son fils.
Oh.
De mesurer la portée de tout ça.
Ouais.
Mais Boaz aussi peut nous montrer une image terrestre de la bonté envers les autres pour mieux nous faire comprendre la bonté de Dieu que parfois qu'on ne voit pas parfois et qu'on va voir un jour. Mais c'est pour ça que Dieu permet que Boaz soit une image terrestre pour faire comprendre des choses terrestre à nous les humains, pour mieux comprendre en fait entre la bonté de Dieu.
On va
Parce que
voir
si
ça. On va voir
parce
ça aussi
que
dans. Oh,
ouais,
excuse-moi.
non,
Non,
continue, continue.
non, vas-y, Raymond. Je m'excuse.
Parce que si elle n'a pas ces choses-là, ce serait peut-être plus difficile pour nous, peut-être, encore, ce serait peut-être plus difficile pour nous de comprendre la bonté de Dieu. Mais en voyant des choses terrestres, comme le Seigneur donnait beaucoup d'exemples avec des choses terrestres pour faire comprendre des choses célestes,
Ouais.
alors ça, je pense que ça peut nous aider à comprendre vraiment la bonté de Dieu.
Alors, on va voir dans le reste du chapitre comment les autres s'intéressent puis sont contents de voir la tournure des choses pour Naomi, là. Puis
Oui.
pour Ruth aussi. Ouais. Ils se réjouissent aussi dans la réjouissance de Ruth puis de Naomi. OK, notre temps est arrivé, on est à 9 h, c'est qu'on va terminer par un mot de prière, puis s'il y en a qui doivent partir, ils pourront partir. Puis s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut jaser, continuer de jaser aussi. Fait qu'on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier dans ta bonté pour toutes ces grandes choses que tu as faites, Seigneur. Comment tu as fait des choses extraordinaires pour nous en nous donnant ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui, il nous a rachetés. De notre vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Mais on te remercie parce qu'il l'a fait par amour pour toi, par amour pour nous aussi. Merci pour ces exemples. Puis donne-nous, Seigneur, de se réjouir aussi de ta bonté, puis de te rendre grâce, puis de te chercher de tout notre cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis chacun qui sont ici ce soir et tous ceux qui n'ont pas pu venir aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.